La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, la Compagnie des auteurs reprend sa route à travers les paysages verdoyants de l'Angleterre et à la poursuite de Jane Austen. Jane Austen, dont on a découvert hier le rapport à cet argent qui lui a longtemps fait défaut, l'argent qui détermine toute une vie quand on est une femme de la gentry à la frontière entre les 18e et 19e siècles en Angleterre, à une époque donc où la dot et les subtiles hiérarchies sociales déterminent votre vie entière. Demain, nous approfondirons certains des romans d'Austen, Mansfield Park, Persuasion et Emma en particulier. Ce sera avec Christine Jordis et Dominique Barberis qui ont toutes deux rédigé des préfaces à ces livres. Jeudi, un exercice d'admiration. Marianne Alphand et Isabelle Bourg nous parleront de leur Jane Austen et aussi pour cette dernière de la réception en France de ces livres qu'on a souvent pris à tort pour une émanation de l'Angleterre victorienne, alors même que la célèbre reine d'Angleterre n'était pas née au moment où Jane Austen décédait. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons jouer sur les mots d'Austen avec la chercheuse Sophie Demire, auteure d'un livre intitulé « Jane Austen, une poétique du différent ». Différent avec un D et même deux. Un essai qui entend mettre en avant l'art du langage à l'œuvre chez la romancière anglaise. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Le jugement est si parfait, la satire si juste, que malgré leur cohérence, on les remarque à peine. Pas la moindre trace de mesquinerie, pas un soupçon de malveillance ne nous arrache à notre contemplation. La beauté illumine ses sceaux. Cette qualité indéfinissable se compose souvent, en fait, de parties très différentes, et pour les rassembler, il faut un génie particulier. L'intelligence de Jane Austen n'a d'égal que la perfection de son goût. Ces sots sont des sots, ces snobs des snobs, parce qu'ils s'éloignent du modèle de raison et de bon sens qu'elle a en tête et qu'elle nous transmet clairement à l'instant même où elle nous fait rire. Jamais romancier n'a fait autant usage et à la perfection de son sens des valeurs humaines. Il naît de ces contrastes une beauté, une gravité même, tout aussi remarquable que l'intelligence de l'auteur et indissolublement liée à elle.
Bonjour Sophie Demire.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous avez peut-être reconnu cet extrait d'une préface de Virginia Woolf à des œuvres romanesques de Jane Austen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue que développe Woolf sur son aîné ?
Vous parlez de la question de la gravité et de la comparaison entre les sceaux et la perfection.
Par exemple.
Oui, elle parle aussi du bon sens, mais ce sont des notions, il me semble, assez morales. Alors que chez Jane Austen, il n'y a pas une typologie stricte. Je dirais que c'est beaucoup plus nuancé. Que les sceaux sont sceaux, il est vrai, mais parfois ils ont aussi des bons côtés. À l'intérieur du roman et dans le fonctionnement de leur discours. Donc en fait, il y a deux facettes au personnage. Il y a le personnage, donc l'art du portrait, et en même temps, il y a aussi le discours. Et le discours, chez Jane Austen, est très est plastique. Il passe d'un personnage à l'autre. Il n'appartient pas à un personnage en particulier, parfois. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est plus nuancé. Il n'y a pas quelque chose de binaire.
Il y a de la compassion, en tous les cas, de l'auteur pour ses personnages. Elle les aime, au fond, ces personnages avec lesquels elle est sévère, parfois.
Oui, certainement. En tout cas, elle s'amuse bien en les créant et en les faisant parler. Et c'est surtout cet art du langage qui est intéressant chez Jane Austen.
Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'amuse bien en les faisant parler ?
Je pense que il y a quelque chose de ce qui est comique, puisque Virginia Woolf fait aussi allusion au plaisir du lecteur qui lit et puis qui peut rire parfois, qui s'amuse. Donc je pense que si, lorsque nous lisons Jane Austen, nous pouvons nous amuser ainsi, c'est qu'elle aussi, elle a eu plaisir à cette écriture, à ces alliances de mots, parfois surprenantes, inopinées.
C'est peut-être un échappatoire aussi pour Jane Austen, l'écriture.
Peut-être.
D'où le plaisir, non ?
Oui. Mais pourquoi est-ce que, pour que ce soit un plaisir, il faudrait que ce soit une échappatoire ? Ça, pas forcément, parce qu'on peut avoir aussi plusieurs plaisirs. Elle devait aussi avoir du plaisir à la conversation dans la vie, mais elle a aussi un plaisir à écrire, c'est certain.
Mais vous ne pensez pas qu'elle avait plus de plaisir dans la fiction que dans la vie ? Qu'elle se sentait mieux dans la fiction, précisément ?
C'est impossible de le dire. Peut-être.
Alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Virginia Woolf, elle parle aussi de ce qui est au-delà des faits chez Jane Austen. Elle parle d'une qualité indéfinissable. Et c'est en effet au-delà de l'intrigue qu'il faut regarder pour saisir la portée des romans de Jane Austen, Sophie de Mire.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, puisque l'intrigue définit une trame, mais il faut aller plus loin pour vraiment entendre cet art et ce plaisir qu'a Jane Austen à écrire. Il faut aller plus loin à la recherche du langage et à la recherche de ce qui provoque notre rire, ce qui nous fait rire quand nous lisons ses œuvres et ce qui nous donne envie aussi de les relire, puisque finalement, une seule lecture ne nous suffit pas à comprendre tous les aspects du roman.
On passe à côté de quoi ? Quand on ne s'intéresse qu'aux intrigues chez Jane Austen ?
On passe sans doute à côté de son ironie, puisque l'intrigue, elle ressemble parfois un peu à un conte de fées, des femmes qui...
Un roman sentimental.
Voilà, exactement.
C'est ce qu'on dit d'elle en général, que c'est un roman sentimental. Mais vous n'êtes pas d'accord.
Oui. Mais il y a certainement du sentimentalisme, cependant il est déjoué par l'ironie. Et l'ironie nous permet de voir qu'elle se moque de ce côté sentimental.
Vous, quand vous avez entrepris votre thèse qui est aujourd'hui publiée sous forme de livre, est-ce que vous la conceviez comme un écrivain avant tout sentimental ? Est-ce que vous aviez lu ses livres avec cet œil-là cet œil de jeune personne, peut-être aussi, que vous étiez à l'époque ?
Non. En fait, j'avais toujours trouvé que, justement, il y avait quelque chose de plus dans les romans de Jane Austen, mais qui était mystérieux et qui m'échappait aussi. Ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas aussi été séduite par le côté un peu, justement, que vous appelez sentimental. Ça m'avait plu aussi en lisant ses œuvres, et puis l'aspect un peu suspense de comment ça va se terminer, qui retient le lecteur, le désir du lecteur qui l'accroche.
Avec qui va-t-on se marier, finalement ?
Oui. Est-ce que ça se termine bien ? Comment ça se termine ? Et la surprise qui est souvent créée aussi, tout ça, ça fait partie du plaisir. Mais on sent quelque chose au-delà aussi, une sorte de profondeur.
La satire est si juste qu'on la remarque à peine, disait également Virginia Woolf. C'est vraiment ça, Jane Austen ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment imperceptible dans ces romans. On peut tout à fait passer à côté, parce que ce sont des alliances surprenantes. On a des... Et puis c'est traité avec une telle légèreté que ça passe tout à fait inaperçu.
Elle dit aussi que Jane Austen a le sens des valeurs humaines.
Oui.
Elle travaille sur l'humain. C'est un travail sur la compréhension de ce que c'est qu'un être humain dans le cadre de la société aussi.
Oui. Après, ce que je trouve intéressant, c'est de s'interroger sur ce qu'on veut dire quand on dit Jane Austen avait le sens des valeurs humaines. Parce que Jane Austen, en fait, dans ce sens-là, puisqu'on la déduit d'une certaine manière de ses textes, devient elle aussi une construction, un personnage, peut-être une fiction. Et donc, si on parle de cette fiction, est-ce qu'elle a le sens des valeurs humaines ? Oui.
Alors, on va entrer un petit peu davantage dans votre livre. En le lisant, je me suis posé la question de savoir si, au fond, vous vous étiez placé sur un point de vue qui était philosophique, d'abord littéraire. On pourrait parler aussi de science du langage. Est-ce que ça signifie que Jane Austen est aussi, par exemple, un peu philosophe, un peu sociologue? Enfin, comment est-ce que vous pouvez nous aider à débrouiller un petit peu ces grandes étiquettes sous lesquelles on aime bien classer les gens?
En fait, cela pose la question du rapport entre littérature et philosophie, littérature et sociologie. Et il me semble que la littérature, en effet, souvent se mêle un peu de philosophie et de sociologie. Et dans les livres de Jane Austen, c'est le cas aussi. Elle nous apprend beaucoup sur son époque et elle analyse les relations entre les classes sociales et à l'intérieur aussi des classes sociales. Et puis, il y a, oui, un côté philosophique dans son écriture.
Et surtout, elle parle des faux-semblants dont nous allons parler aussi.
Catherine avait sous les yeux un spectacle splendide et elle commença pour la première fois, ce soir-là, à se sentir vraiment au bal. Elle brûlait de danser mais ne connaissait personne dans la salle. Mrs. Allen faisait tout ce qu'on peut faire en pareille circonstance, en disant régulièrement avec une sérénité parfaite « J'aimerais que vous puissiez danser, ma chère, j'aimerais que vous trouviez un cavalier. » Sa jeune amie lui fut un moment reconnaissante d'exprimer ce souhait, mais il fut si souvent répété et se révéla si parfaitement en vain que Catherine finit par se lasser et cessa de remercier Mrs. Allen. Tout le monde se mit bientôt en mouvement pour le thé. Catherine commençait à éprouver un sentiment qui ressemblait à de la déception. Elle était lasse d'être constamment écrasée par des gens dont en majorité les visages n'offraient rien qui pût éveiller l'intérêt et qui tous lui étaient si parfaitement inconnus. Lorsqu'elles arrivèrent enfin dans la salle où l'on servait le thé, elle ressentit plus vivement encore la gêne de n'avoir nul ami à rejoindre, nulle relation à revendiquer, nul gentleman dont réclamer le secours. Dès qu'elles furent installées, Mrs. Allen se félicita d'avoir préservé sa robe de tout dommage. « C'était vraiment affreux qu'elle fût déchirée, dit-elle, n'est-ce pas ? La mousseline en est si délicate. » « Comme il est gênant, murmura Catherine, de ne pas avoir ici la moindre personne de connaissance. »« Oui, ma chère, répondit Mrs. Allen, c'est extrêmement gênant. »« Que faire ? Les messieurs et les dames qui à cette table semblent se demander ce que nous sommes venus faire là. »« Oui, cela est vrai, c'est fort déplaisant. »« Ne ferions-nous pas mieux de partir ? Demanda Catherine. »« Je pense que nous ferions mieux de rester. » On est tellement bousculés dans cette foule. Comment est ma coiffure, ma chère? Quelqu'un m'a donné un coup qui l'aura dérangée, j'en ai peur. Non, vraiment, elle est parfaite.
Et c'est donc un extrait lu par Guillaume Gallienne de Northanger Abbey. Vous aviez évidemment reconnu pour avoir passé 3 ans et demi, hein, c'est ça,
oui.
Pour écrire votre thèse dans les 6 livres de Jane Austen. Ce qu'on entend, et vous allez nous l'analyser, c'est la précision du langage, la subtilité du langage, l'art du langage.
Oui, en effet, c'est l'art du langage. Et puis aussi le comique, là, dans la scène qui a été lue, pour montrer donc un peu le côté vide des conventions sociales. Que faire dans cet endroit? Se promener, mais on ne connaît personne, il n'y a pas d'interlocuteur de choix, et les préoccupations sont uniquement centrées autour de l'apparence. pour ce qui est de Mrs. Allen, la robe, le tissu, la coiffure, tous les détails sont présents.
L'ironie, c'est la petite musique qu'on entend au fond dans chacune des phrases de Jane Austen avec chacune de ses personnages. Chacun de ses personnages, que ce soit Catherine Morland, Fanny Price, Emma Woodhouse, pour reprendre certains de ses personnages les plus emblématiques. Donc il y a toujours de l'ironie.
Dans chaque livre, oui.
Dans chaque livre.
Oui, il y a toujours de l'ironie, en effet.
On pourrait même comparer ces figures féminines à des héros philosophiques de Voltaire, par exemple, qui, lui aussi, a utilisé l'ironie, beaucoup.
Oui, en effet. Alors, il y a aussi un point commun, c'est le fait que les héros de Voltaire sont souvent étrangers à la société qu'ils visitent. Leur vision est amusante et elle permet une distance et le personnage est plus libre. Et c'est le cas aussi dans les œuvres de Jane Austen parce qu'il s'agit de personnages féminins et parfois des personnages féminins aussi comme Catherine Morland qui sont étrangères au milieu social dans lequel elle est introduite.
Donc ils ont l'œil du visiteur quasiment.
Voilà, exactement, l'œil du visiteur et une certaine liberté. Et cependant, l'ironie de Voltaire vise des thèses, alors que l'ironie austénienne vise aussi des dispositifs énonciatifs.
Oui. Mais leur point commun, c'est qu'ils sont en décalage par rapport au discours dominant, au discours de la doxa.
Oui. Exactement, qu'ils cherchent à prendre une distance par rapport à ce discours-là, celui de la doxa, pour trouver un discours qui leur ressemble plus, qui serait plus en accord avec quelque chose de singulier.
Leur intériorité.
Oui, enfin, chez Voltaire, c'est parfois plus politique, c'est moins le cas chez Jane Austen. Chez Jane Austen, c'est plus la quête d'un discours singulier, d'un désir singulier.
Oui. C'est ça la différence, c'est que d'un côté on a un polémiste et de l'autre côté on a quelqu'un qui va regarder certes la société du dehors, mais presque de l'intérieur, du dehors mais de l'intérieur d'elle-même.
Oui, de l'intérieur, oui, en effet, du point de vue de personnages dont les préoccupations sont des préoccupations quotidiennes.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez à 15h18 sur France Culture. Nous sommes avec Sophie Demire et nous parlons de Jane Austen. Alors tout au long de votre livre, Sophie Demire, vous convoquez la fine fleur de la pensée philosophique et la pensée linguistique du XXe siècle. Donc vous éclairez au fond le siècle d'Austen par le XXe siècle.
Oui. Je ne sais pas si c'est le siècle, mais...
Non, pardon, le travail,
oui,
l'œuvre d'Austen.
En tout cas, de lire...
Mais qui est quand même représentatif de son époque, puisque précisément, on vient de voir qu'il y avait quelque chose de presque sociologique, finalement, dans le travail d'Austen.
En tout cas, la vision de l'époque qui est transmise par les romans de Jane Austen. Alors... c'est vrai que j'ai travaillé avec des auteurs comme Agamben, Lyotard, Benveniste, mais c'était pour partir justement de son écriture, du langage, de comprendre ce qui se passe au niveau des mots.
Ça vous a paru tout de suite évident de convoquer ces auteurs-là ?
Non, pas du tout. C'était dans mon travail de thèse, en fait. et sur les conseils de mon directeur de thèse, Monsieur Pedot, parce que...
Merci Monsieur Pedot, que oui. Nous saluons.
Oui, parce que en fait, c'était surtout les termes de discours et d'expérience desquels j'étais partie. Et donc, il m'avait donné des conseils de lecture. Et c'est surtout à cette occasion que j'ai découvert Lyotard, Jean-François Lyotard, et le concept de différent, que je ne connaissais pas du tout.
C'est le titre d'un livre de Lyotard,
voilà,
le différent, publié en 83.
Exactement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant.
Qu'est-ce qu'il dit, ce livre ?
Alors, il explique que ce qui existe, enfin c'est presque une ontologie de la phrase, ce qui existe, ce sont les phrases, il y a des phrases, et que ces phrases sont prises à l'intérieur de genres de discours. Lyotard explique aussi que certains genres de discours sont hétérogènes, ils ne peuvent pas être traduits l'un dans l'autre, et si l'on essaye de le faire, on commet un tort. Un discours commet un tort à l'égard de l'autre. Et donc ça peut nous aider dans la vie de tous les jours, mais j'ai
trouvé... Par exemple, en quoi ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours ?
Eh bien, par exemple, sur un plan social, on peut avoir dans un endroit les exigences des migrants, par exemple, et d'un point de vue politique, on va avoir quelqu'un qui va avoir une autre exigence parce qu'il veut être élu et reconnu par, et aimé par les gens de...
Il n'a pas le même objectif,
là où il est,
oui.
Voilà, là où il est, alors que les migrants, ils ont des objectifs, par exemple, de survie. Donc, entre les deux, il pourra y avoir un différent, puisque les migrants ne vont pas être entendus. Ils pourront même pas être compris. Leur langage ne pourra pas être, entendu. Et c'est le cas aussi chez Jane Austen. Les exemples les plus frappants, ce sont les demandes en mariage dans Pride and Prejudice, la demande en mariage de Mr. Collins et la demande en mariage de Mr. Darcy, la première. Les deux.
On entendra tout à l'heure la demande en mariage de Mr. Darcy.
D'accord.
Mais n'hésitez pas à nous en parler d'ores et déjà.
D'accord, donc en fait, à chaque fois et dans les deux cas, je vais commencer par Mr. Collins, puisque lui, sa demande en mariage, elle ressemble plus à un entretien d'embauche. Donc en fait, il fait semblant de parler le discours de l'amour, mais il parle le discours que j'ai appelé le discours du capital, où la question c'est l'argent et il faut donc comment doit être une femme pour bien gérer la maison, pour bien s'occuper de la maison. Et la femme, en retour, obtient un confort financier.
Oui, alors on garde pour tout à l'heure la deuxième demande en mariage qu'on entendra. Et vous parlez de trois genres de discours. Le discours du capital que vous venez d'évoquer. Et là, vous faites même un rapprochement osé, pourrait-on dire, entre Jane Austen et Karl Marx ?
Oui. Oui, alors en fait, c'est George Steiner qui fait ce rapprochement dans son livre, qui Poetic of Thought, si je ne me trompe pas. Et dans ce livre, il dit que Jane Austen est proto-marxiste. Et c'est assez étonnant et c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, on peut...
Pourquoi ? En quoi est-ce qu'elle est proto-marxiste ?
Alors voilà, disons que je dirais que... Enfin, j'ai essayé de réfléchir sur pourquoi il disait cela. Et en fait, ça vient du fait que Jane Austen est très intéressée par la question du capital. Et hier, vous avez parlé de l'argent, donc c'est aussi lié. Elle montre comment l'argent est au cœur des relations humaines. Et comment aussi la consommation devient petit à petit le paradigme du lien social. Et ça commence tout juste, et aujourd'hui, on en voit aussi encore les effets. Et elle en parle déjà, elle le sent déjà.
Mais elle ne le théorise pas, elle le montre en fait.
Elle le montre.
C'est-à-dire on a l'impression qu'elle le comprend instinctivement.
Oui.
Peut-être qu'elle ne l'a pas vraiment formalisé. On a l'impression, en lisant les romans, qu'elle ne fait que décrire la réalité telle qu'elle la voit. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, ou vous pensez qu'elle a été davantage dans l'analyse, mais qu'elle n'a pas voulu le montrer ?
Non, en effet, il n'y a pas d'analyse exactement. Mais en fait, Lyotard dit que le différent existe entre le capital et les autres discours, puisque le discours du capital, c'est l'argent, essaye de soumettre tous les discours, les autres discours à lui-même. Et ça, c'est très présent dans l'œuvre de Jane Austen, puisque même le discours de l'amour est soumis au discours du capital. Donc, on ne sait plus comment y échapper. C'est comme si ça, tout était repris par ce discours-là.
Alors, il y a Jean-François Lyotard, il y a Giorgio Agamben. Vous interprétez par exemple les aventures de Catherine Morland, donc dans l'abbaye de Northanger, à partir de la définition du mystère apportée par le philosophe italien Giorgio Agamben. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Oui, alors...
Cette notion de mystère, là.
Cette dimension-là, c'est parce que, en fait, Catherine Morland, elle voudrait être une héroïne gothique. Et donc là, il y a une mise en abîme, puisque c'est une réflexion sur le statut de l'héroïne. Elle voudrait ne pas arriver à s'endormir le soir parce qu'elle aurait trop peur des bruits autour d'elle, des dangers dans l'abbaye. Mais en réalité, elle finit par s'endormir. Et à chaque fois qu'elle pense qu'elle va trouver quelque chose, en fait, ça, les choses sont très communes. Il y avait juste un papier avec une liste de linge. Enfin, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attend.
Elle a une vie trop banale pour elle.
Voilà, elle pense...
Elle se trouve trop banale.
Oui, mais en réalité, le rapprochement avec la citation et la question du mystère montre, c'est que même dans cette banalité, dans cette vie quotidienne, il y a du mystère. Et que ce mystère, il est dans, en fait, le langage, dans la parole. Et qu'elle-même, elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, mais petit à petit, si on lit bien le texte, on voit que ce qu'elle cherche vraiment, c'est Henry Tilney, en fait, celui qu'elle aime. Donc elle est en quête de son propre désir, de son propre amour. Et c'est ça le vrai mystère.
Rien n'est plus désespérant que la constatation qu'il n'y a pas d'énigme, mais seulement son apparence, ce qui signifie en réalité que l'énigmatique ne concerne que le langage et son ambiguïté.
Oui.
Citation donc du philosophe italien. Discours de l'argent, discours amoureux. Ça, c'est le deuxième discours à l'œuvre chez Jane Austen.
Oui.
Et ce discours amoureux-là... C'est de la fausse monnaie, dites-vous. Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, alors, oui, ça dépend, mais souvent, en effet, c'est de la fausse monnaie, puisqu'il se fait passer, donc, pour un discours amoureux, mais en fait, c'est un discours du capital. C'est ce que je vous ai montré avec Mr. Collins. C'est vrai aussi avec Mr. Elton dans Emma. C'est assez drôle parce que lorsque Emma le refuse, sa proposition en mariage, dans le texte, il est dit que c'est pas très grave parce que lui, il choisira une autre Miss Somebody. Donc c'est très intéressant, ce Miss Somebody, avec 10 ou 20 000 livres. Enfin, c'est une question financière. Peu importe, en fait, la personne. Ce qui compte, c'est l'argent. Donc il y a ce côté indifférent. On peut remplacer le partenaire par n'importe qui. Sa personne ne compte pas.
Je vous avais promis la deuxième déclaration d'amour, d'orgueil et préjugés, Darcy et Elisabeth, la voici.
Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et d'un air agité débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait, je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Elisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. Mr. Darcy crut y voir un encouragement et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Son inclination s'était toujours violemment heurtée, disait-il, à la conscience de commettre une mésalliance et à l'obstacle que représentait la famille d'Elisabeth. Tout cela fut détaillé avec une chaleur bien naturelle si l'on songeait au sacrifice que faisait sa fierté, mais certainement peu propre à plaider sa cause. En dépit de sa profonde antipathie, Elisabeth ne pouvait rester insensible à l'hommage que représentait l'amour d'un homme tel que Mr. Darcy. Elle commença de se sentir peinée du chagrin qu'elle allait lui causer, mais irritée par la suite de son discours, elle vit sa colère supprimer toute compassion, et elle essaya seulement de se dominer pour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu'il aurait terminé. Il conclut en lui représentant la force d'un sentiment que tous ses efforts n'avaient pas réussi à vaincre et en exprimant l'espoir qu'elle voudrait bien y répondre en lui accordant sa main. Dès qu'il eut terminé, elle lui répondit « les joues en feu ». En des circonstances comme celle-ci, Je crois qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance pour les sentiments dont on vient d'entendre l'aveu. C'est chose naturelle. Et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vous remercierais. Mais je ne le puis pas. Je n'ai jamais recherché votre affection, et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d'avoir pu causer de la peine à quelqu'un, mais je l'ai fait sans le vouloir, et cette peine, je l'espère, sera de courte durée. » Mr. Darcy, qui s'appuyait contre la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Elisabeth, accueillit ces paroles avec autant d'irritation que de surprise.
Des auteurs, et Sophie Demire est avec nous pour écouter cette déclaration d'amour de Mr. Darcy à Elisabeth. Une déclaration d'amour, mais enfin, en même temps, c'est un peu vexatoire, non? C'est une drôle de déclaration.
Oui, oui, c'est très étonnant parce que Mr. Darcy est pris, en fait, au piège, pris entre deux sentiments absolument contradictoires. Son amour pour Elisabeth...
Qui est réel.
Qui est réel, oui, il l'apprécie, mais sa manière de l'apprécier déplaît fondamentalement à Elisabeth, puisque pour l'instant, la conscience de son rang, de ce qu'il doit à sa famille, à une certaine image de lui, l'empêche d'aimer vraiment Elisabeth, de l'aimer telle qu'elle est. Il aime quelque chose d'elle, mais pour l'instant, il est encore prisonnier de cette idée. C'est-à-dire que tout tourne autour, là, dans le rapport entre Darcy et Elisabeth, autour du terme « gentleman ». Mmh. Donc lui, pour lui, être un gentleman, c'est respecter, au début du roman, c'est respecter certaines valeurs. Et c'est aussi la question de comment parle un gentleman, comment s'adresse un gentleman à une femme. Et lui, il s'adresse à Elisabeth d'une façon qui est presque grossière. Alors qu'il veut respecter ce statut de gentleman, mais il s'adresse... Il lui parle mal, donc c'est ce qu'elle lui fait remarquer. C'est-à-dire, vous voulez être un gentleman, vous voulez montrer que vous avez ce statut social, mais vous ne vous comportez pas comme un vrai gentleman au sens moral.
Et oui, parce que s'il avait été un vrai gentleman, il aurait fait une réelle demande, il lui aurait demandé en mariage. Or, ce n'est pas d'une demande qu'il s'agit, mais plutôt de l'affichage... de son acceptation de demander en mariage, parce qu'il faut le faire, Elisabeth, qui est d'une extraction plus basse que lui. Donc ce n'est pas une vraie demande au sens d'attendre une réponse.
Oui, exactement. En fait, il ne doute pas qu'Elisabeth, elle aussi, serait
enchantée.
Très heureuse, enchantée de pouvoir épouser cet homme qui est tellement riche, tellement... bien vu par tous.
Alors, elle se marie finalement avec Mr. Darcy. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait justement être vexée par cette demande qui n'en est pas une.
Oui, c'est intéressant ce cheminement, justement, cette prise de conscience d'Elisabeth. Il faut dire qu'elle a certains préjugés contre Mr. Darcy liés à ce que lui a raconté Wickham. Donc, elle est... prise au piège par ce récit de Wickham. Et puis, il y a aussi le rapport conflictuel entre Darcy et Elisabeth vient de ce premier moment, de leur première rencontre au bal, lorsque Darcy trouve qu'elle n'est finalement qu'acceptable, tolérable, mais il ne souhaite pas danser avec elle. Donc, il blesse sa fierté.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
h 34:35 maintenant sur France Culture. Comme chaque jour, nous marquons une pause dans cette émission pour retrouver l'un de nos chroniqueurs, préférés, disons-le, dans Compagnie des Revues. Il s'agit d'Olivier Monnier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, vous ravivez le souvenir dans cette chronique de ce qu'il faut bien appeler un grand oublié de la littérature française contemporaine et dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
Oui, alors pas tout à fait à Bordeaux, d'où je vous parle aujourd'hui, mais hélas, dans l'ensemble de la scène littéraire, c'est le cas. En tout cas, c'est une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de ce que la postérité est parfois mauvaise fille. Mais commençons, Mathieu, si vous le voulez bien, par un peu de lecture. Soit un nuage, un merveilleux nuage comme nous les aimons depuis l'enfance, au point de nous mettre, la dernière heure venue, en posture de les voir passer encore une fois. Celui-ci arrive de loin. Il s'est formé au-dessus de la Caspienne, où l'on produit aussi du caviar. Laissant sur sa droite la route des grands fleuves russes, il a préféré suivre la pente naturelle du soleil. Il a donc vu le jour se lever sur la mer d'Azov. À Sébastopol, il a changé pour Odessa. Il a survolé la Moldavie et pris son rythme de croisière à la verticale du Danube. Belgrade, Sarajevo. Aucun reflet de coupole ou de rivière, pas même les seins dorés de Venise ne l'ont retenu. Seule peut-être la Suisse, un instant, l'aurait tenté. L'atmosphère y est si pure. Les cumulus rangés avec tact entre les montagnes ont l'air tellement à leur place. Il faut en convenir, les sommets helvètes et les nuages vont aussi bien ensemble que les beaux parleurs et les coins de cheminée. Il a continué cependant, et c'est alors qu'à l'ouest de Bordeaux, un homme qui regardait vers le ciel l'a vu apparaître. Cet homme, qui regarde passer les nuages dans le ciel de Bordeaux, s'en est allé avec la discrétion qui lui était coutumière un jour de janvier 2013. Ses lignes, si emblématiques de sa manière d'être et d'écrire, rêveuses, voyageuses, sont extraites d'un de ses plus beaux livres, Bordeaux, en trois mots, les bords des eaux en fait. Il s'appelait Pierre Veitté et il n'est pas trop tard pour le redécouvrir tout à fait.
Alors racontez-nous, Olivier, qui était Pierre Veitté ?
D'abord, Mathieu, un journaliste, un des plus grands. Il se lance dans le métier vers la fin des années 60 dans les pages de Sud-Ouest avec celui qui restera le grand complice et ami de sa vie, Jean-Claude Guibaud. Prix Albert Londres pour une éblouissante série de reportages sur la mort de Franco. L'Espagne sera toute sa vie un de ses ports d'attache. Il y en aura d'autres. Londres, Lisbonne, Gênes, Amsterdam, les rives du Médoc. Il écrit sur tout ce qui relève de son bon plaisir. Les courses de voiture, la corrida, la télévision. Quand d'ailleurs éditera-t-on les sublimes chroniques de télévision qu'il écrivit des années durant, chaque dimanche, et dont seules celles de Serge Danet, consacrées au même sujet, soutiennent la comparaison. Le cinéma, bien sûr, et surtout le cinéma classique de l'âge d'or d'Hollywood. Le vin, qui lui est une civilisation. Le jazz, les jeunes filles de province et les femmes des ports.
Et la littérature peut-être aussi ?
Bien sûr, elle est celle qui ne se laisse jamais tout à fait oublier, c'est son atmosphère. Et ce même s'il lui faudra attendre d'atteindre la quarantaine pour enfin publier sous son nom, et grâce à l'insistance de Jean-Claude et Catherine Guibaud, qui fondent alors les éditions Arléa, auxquelles il restera fidèle jusqu'à la fin, un premier roman, La Pension des Nonnes. D'autres suivront, Marie Barbola, Cœur de Père, très beau également. Mais ce n'est pas pour eux, je crois, que Pierre Veitté mérite d'entrer en habit de lumière dans la postérité. Et je crois aussi qu'il le savait et qu'il en souffrait. S'il est un écrivain magnifique, comme un héritier direct du meilleur Morand, celui de Venise, autant que du Barnabous de Larbeau, c'est par ses petites fugues, ses échappées d'hédonistes amusés, parfois cruels aussi, celle de Bordeaux, que l'on a déjà citée, de Querencia. Cette Querencia, qui est un terme tauromachique désignant le refuge mental du taureau dans l'arène, qui résume à elle seule l'homme et son œuvre. Pierre Veitté, c'était un grand peintre des paysages intérieurs comme de ceux que lui offraient ses rêveries. Il y a du Gracq en lui, du Vialat également. Et c'est à cette hauteur, dans ce compagnonnage, que son œuvre mérite d'être placée et absolument redécouverte. Sous le titre « Oui, j'ai connu des jours de grâce », les éditions Arléa l'ont réédité en un volume et en intégralité. C'est une pièce maîtresse de la bibliothèque de tout gentleman, de tout honnête homme, Mathieu.
Mais évidemment, et si Mr. Darcy vivait aujourd'hui, j'imagine qu'il aurait dans sa bibliothèque un livre de Pierre Veitté, en bon gentleman. Est-ce que vous avez envie de nous dire un tout petit mot de votre amour ou votre désamour pour Jane Austen, dont on parle toute cette semaine ?
Non, mais je m'étonne souvent qu'elle ait conservé cette force dans l'imaginaire du lecteur occidental. parfois, c'est tout à fait, je m'en étonne pas d'ailleurs, c'est tout à fait légitime, mais parfois, me semble-t-il, au détriment d'œuvres assez majeures d'époques comparables. Je pense par exemple à George Eliot, qu'on a un peu trop oublié, et qui, à mon sens, en découle directement.
Voilà. Alors, je pense que Sophie Demire n'est pas d'accord. Merci beaucoup, Olivier. Et donc, on se retrouve à ce même micro la semaine prochaine. Continuons à écouter les sous-textes cachés dans les phrases de Jane Austen. Je vous propose d'entendre, pour ouvrir cette seconde partie, un autre extrait d'Orgueil et Préjugés qui met en scène, cette fois, les parents d'Elisabeth, fort différents l'un de l'autre, aux prises avec le choix de leur fille de ne pas se marier, donc avec Mr. Collins. C'était la première demande en mariage, Mr. Collins qui n'était pas du tout attirant, souvenez-vous.
Mrs. Bennet sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. « Arrivez ici, mademoiselle !» lui cria son père dès qu'elle parut. « Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Mr. Collins, me dit-on, vous aurez demandé en mariage. Est-ce exact ?»«
Très exact !»
répondit Elizabeth. « Vous avez repoussé cette demande ?»«
Oui, mon père. »«
Fort bien !» Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez, c'est bien cela, Mrs. Bennet ?
Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai de ma vie.
Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas Mr. Collins et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez. Elizabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue. Mais Mrs. Bennet, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée.
« Mr. Bennet, à quoi pensez-vous de parler ainsi ? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. »«
Ma chère amie, répliqua le mari, veuillez m'accorder deux faveurs. La première, c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement. Et la seconde, de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serai heureux de m'y retrouver seul le plus tôt possible. »
Alors ça aussi, Sophie Demire, ce sont des scènes d'anthologie et aussi des personnages d'anthologie, celui de la mère d'Elisabeth qui interfère d'ailleurs au plus haut point dans la vie de ses filles dans Orgueil et Préjugés. Parlons un peu de la mère justement. C'est une mère qu'on pourrait qualifier elle aussi d'abusive, de la même manière que Darcy est un petit peu abusif dans son genre.
Oui, d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas fini d'expliquer que si finalement Elisabeth épouse Darcy, c'est qu'il est capable de reconnaître qu'il ne s'est pas comporté comme un gentleman.
Et ce qui fait de lui un gentleman d'une certaine façon.
Voilà, à la fin il évolue, et pas, alors que Mrs. Bennet n'évolue pas, elle ne se dit pas que peut-être parfois elle exagère. Mais ce qui est amusant, c'est que son but, c'est de marier ses filles et qu'elle y parvient, malgré
elle
tout.
Elle ne pense qu'à ça.
Voilà, c'est sa seule et unique préoccupation. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. Son mari préfère la compagnie de ses livres. Et donc, elle est laissée à elle-même. Et voilà, son occupation, c'est... ce sont ses filles, elle n'a rien d'autre finalement à faire. Et puis,
donc c'est une forme d'excuse alors pour elle que nous fournit Jane Austen ?
Non, je crois que c'est au niveau du discours, là encore, ça nous montre qu'à l'époque, la question de la survie matérielle pour les femmes est au centre de toutes les préoccupations et qu'elles sont dans le besoin. Là, il y a en plus un problème d'héritage, donc... sa préoccupation vient du fait qu'elle se dit « Mais comment mes filles vont-elles survivre lorsque nous ne serons plus là ?» Donc c'est à la fois ridicule et excessif, mais à la fois c'est une préoccupation essentielle.
Et puis ce passage, c'est aussi l'occasion pour Austen de donner son avis sur ce qu'on pourrait appeler les vieux couples, les couples qui ont été justement arrangés pour des questions d'argent en général, et on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que lui, il veut qu'on le laisse seul dans la bibliothèque pendant que elle s'occupe de ses filles.
Oui, et d'ailleurs, dans le livre, il est aussi précisé que Mr. Bennett a été séduit par la beauté de Mrs. Bennett et que elle, ce qui lui a plu, c'était qu'il avait un héritage conséquent.
Mais des donc deux lui côtés... est plus passionné, finalement.
Oui, donc lui avait le côté plus charnel, alors que chez la femme, c'était le côté du besoin. Et c'est aussi un exemple qu'on retrouve chez de nombreux couples. Donc là, c'est peut-être aussi une façon de montrer quel sera l'avenir. Par exemple, chez Lydia et Wickham aussi, où enfin, on ne sait pas trop exactement ce qui les a, ce qui a fait qu'ils se sont mis ensemble. Mais en tout cas... c'est le fait du plaisir, de la rapidité, d'aller vite. Il n'y a pas de temps qui est pris pour se demander, mais est-ce que vraiment je vais m'entendre avec cette personne ?
Mais du coup, c'est quand même une vision très dure. Il n'y a pas de couple qui s'entende bien, sauf un, je crois.
Les Gardiner ?
Ouais, c'est ça.
Oui. Dans Pride and Prejudice, oui.
Ce sont les seuls.
Il y a aussi dans Persuasion, le couple des Croft. Mm-hmm. Et donc, oui, en effet, on n'a pas beaucoup qui s'entendent bien. Et c'est souvent des relations assez conflictuelles, ou bien il y en a un des deux, comme les Bertram, qui est passif et donc qui laisse la place à l'autre. Mais en même temps, c'est pour montrer que tous ces couples-là ne se sont pas construits autour de la conversation, autour de parler ensemble. Mmh. Mais d'où le problème ensuite du conflit. Alors que chez les héros de Jane Austen, voilà, il y a cet effort pour parler ensemble, pour trouver, même si peut-être il n'y arrive pas complètement, mais au moins trouver un discours qui pourrait être parlé ensemble à un moment.
Oui, c'est une sorte de politesse sans respect, de bienséance sans écoute, de bonne manière sans savoir-vivre. Et là, je cite une phrase de votre livre.
Oui, c'est ça. Donc, puisque une critique explique que chez Jane Austen, c'est toujours des mariages donc conflictuels, mais il y a ce vernis toujours social de la politesse, malgré la cruauté qui est là derrière.
Ce qui le rend encore plus cruel, sans doute. Mm.
Alors, on a dit de Jane Austen qu'elle inaugurait la grande tradition du roman psychologique anglo-saxon, c'est-à-dire, je ne sais pas, Henry James, par exemple, c'est vrai.
Il me semble que Jane Austen est en effet pratiquement la créatrice de tout un courant de la littérature anglaise qui est presque le plus original et le plus extraordinaire, le roman de la prose qui est celui de la prose des Anglaises. Parce que on peut même mettre Henry James dans le roman de la prose des Anglaises et qui va ensuite jusqu'à Virginia Woolf. Et Virginia Woolf l'a très très bien caractérisé dans son livre Moments de vie, en disant que son ambition dans le roman serait non seulement de mettre les moments de vie, c'est-à-dire les moments extraordinaires, mais également les moments de non-vie. Et elle dit, il y a très peu de romanciers qui sont capables de cela. Et la première à l'avoir fait, c'est Jane Austen. Et ensuite, il faut essayer d'aller dans la même voie.
Alors, un petit pas de côté, Sophie Demire, en cette émission qui va bientôt toucher à sa fin, avec cette archive donc de Jacques Roubaud qu'on entendait ici au micro de Jacques Duchâteau au début des années 80. Vous la comprenez, vous, cette expression qu'il emploie, la prose des Anglaises ? Est-ce qu'elle ouvre, selon vous, une prose des Anglaises dont fait partie, à surprise, Henry James ?
Je ne sais pas, je n'aurais pas employé ce terme parce que James Joyce, à mon avis... Et fait partie aussi de cette prose. Donc, après, il faudrait voir exactement de qui il parle. Mais moi, je pense à, bien sûr, Jane Austen, Virginia Woolf, Henry James, James Joyce. Donc, ça fait un équilibre entre les hommes et les femmes. Et c'est plus le côté du discours indirect libre qui vient à ce moment-là que Jane Austen invente et qui a été ensuite... repris par Woolf et Joyce d'une manière extrêmement surprenante.
C'est ce fameux courant de conscience.
Voilà, c'est ça. Et puis même qu'on retrouve aussi chez Proust en France. Donc ça, c'est très intéressant, puisque ce sont des moments où on ne sait pas exactement qui parle, mais on est à l'intérieur, souvent, de l'esprit d'un personnage. Et parfois, chez Jane Austen, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander si c'est vraiment à l'intérieur du personnage ou si c'est un narrateur. Mais mon interprétation, c'est qu'on est plutôt toujours à l'intérieur de la pensée d'un personnage, qu'il n'y a pas de reprise par un narrateur dans les romans de Jane Austen.
Donc, pas de narrateur, ça veut dire pas de point de vue globalisant.
Exactement.
Donc, ça veut dire qu'elle-même, si on pousse un peu les choses, n'a pas d'avis sur ses personnages.
Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que elle écrit pour montrer quelque chose qui se passe au niveau du langage, et que dans cette écriture, il y a une ironie qui laisse au lecteur la responsabilité de sa lecture, mais sans donc avoir un point de vue de type du jugement. Il y a quand même un point de vue, c'est celui de l'ironie et celui du neutre. C'est le point de vue qui déjoue le paradigme, ainsi que l'écrit Roland Barthes, qui refuse les oppositions binaires pour chercher un discours qui n'est pas de l'ordre du consommable. Et je pense que derrière ça, il y a un désir de pouvoir être l'auteur de son œuvre, et qui était impossible à l'époque de Jane Austen.
Le neutre, c'est avant tout un désir, Sophie Demire ?
Oui, pour moi, c'est un désir au sens où on ne peut jamais l'atteindre. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être absolument dans cet écart, dans cette non-position, ni homme, ni femme, ni bien ni mal. Comment est-ce qu'on peut être toujours dans cette position? C'est très difficile. Donc c'est toujours une tension, toujours un désir, toujours un effort. Et c'est ce que l'ironie, c'est l'effort de l'ironie dans les romans de Jane Austen, c'est d'être ce neutre.
Est-ce que vous êtes également intéressé par toutes les adaptations qui ont fait florès finalement des romans de Jane Austen? Je crois qu'il y en a jusqu'à 9 pour certains de ses romans. Vous les avez regardées? Vous les trouvez intéressantes?
J'en ai regardé certaines. Et elles ont certaines valeurs, mais ce n'est pas exactement pareil que les romans, puisqu'on ne retrouve pas l'ironie austinienne. Mais j'ai travaillé récemment sur le film de Lady Susan. J'en ai parlé. Et le nouveau film qui est sorti récemment. Et dans ce film-là, j'ai trouvé qu'il y avait une place plus grande qui était accordée à l'ironie.
Alors, des films qui sont ironiques en eux-mêmes et basés sur des romans de Jane Austen, il y en a aussi. Par exemple, il y a ce film de zombies qui s'appelle « Orgueil et préjugés et zombies ». Vous n'avez pas, oui, pas regardé ça?
Non, mais je crois que c'est un livre aussi à l'origine.
Ah, c'est aussi un livre.
Il me semble, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais... l'ironie, c'est pour vous parce qu'il y a des zombies?
Non, mais c'était un petit peu une blague de fin d'émission.
D'accord.
À 15h53, bientôt 54. Merci beaucoup, Sophie Demire, pour votre analyse très précise du langage d'Austen et de ses nombreux sous-textes. Et maintenant, je vous propose d'entendre, si vous le voulez bien, un autre artiste de la langue. C'est un déclamateur hors pair. Il s'appelle Jacques Bonafé.
Bonjour, avec nous le livre « Qui vient de loin ?». C'est un long poème de Marie-Claire Bancard qui nous embarque en lui. Plus on avance et plus on est pris. Il y a démons meurtris devant la porte. N'ouvre pas. Ils sont amoncelés, ils tomberaient en désordre. Certains montent encore l'escalier. Ils cherchent peut-être le silence, leur silence. Si tu ouvrais la porte, ils entreraient dans les dictionnaires. Ils occuperaient ces calmes logis d'ordre alphabétique où rien ne prouve que l'horreur existe vraiment. Mais le sang coulerait d'eux chaque fois que nous arriverions au mot « sang ». Nos livres vieillissent autour de nous comme une forêt considérable. Ils nous parlent souvent un autre langage que les lettres imprimées sur eux. Ils disent les années écoulées ensemble sur la rondeur imperceptible de la terre et notre disparition future, à nous tous, imprévisible, certaine. Et trouvez à la page 27, vous ici, mes chers auditeurs, mais oui, avec la certitude que vous la portez, votre mort, en infaillible, peut-être en express recommandé, sans savoir qui vous a jeté dans ce jeu-là. Je commence mes allers-retours de métaphores, descriptions, réflexions, garanties par une longue vie d'études. Mais nous n'en resterons pas là. Ce serait parole dans une nef des fous, conduite par la lumière impitoyable du futur. Nous verrons les choses de plus près, de plus vastes, choses de notre vie vécue avec les autres, les insectes, les herbes. Mais la mort, l'oubli, marque si durement. Tu sais ce que veut dire avoir mal, mais avoir mal au corps ou dans la tête, c'est brouiller comme le décor sali d'un pavement ou la trace d'un rouge à lèvres sur la joue. Brouiller, barré même, on souffre corps et âme. Tout comme en d'autres occasions, la joie envahit nos artères et les ongles des pieds. À la page 34, hasard ou réponse secrète? Découverte au petit matin devant la porte d'un carré de terre creusé au profond du trottoir. Il promet plantation d'un arbre, pas très au large dépassant. Grandit en moi l'envie de vivre encore, étroitement, cerné peut-être, mais vivre, oui, bousculé, transitoire, allègre, près de l'arbre devenu grand. Courbe d'une montagne, profil d'une encolure de cheval, harmonies égales perçues brièvement depuis la route ombragée. Et à la page 44, humé, respiré, reniflé, geste et bruit d'animal appellent à notre tendresse. Mince trace devant nos pas, branches traînées, course d'oiseaux, plus que belle éloquence, ces langages diffus pénètrent profond.
Entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Et c'est avec Jacques Bonafé que s'achève, comme chaque jour, cette compagnie des auteurs. Encore merci à vous, Sophie Demire, de nous avoir initié aux subtilités austiniennes. Si l'on veut en savoir plus, je rappelle que votre livre Jane Austen, une poétique du différent avec 2D, apparu en 2015 aux presses universitaires de Rennes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou sur le site de France Culture. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission était réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait aujourd'hui Élise Leu. Et à la préparation, Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Saut. Un grand merci à eux.